publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ, à l'écoute de votre vie. RCJ Midi, Elsa Parienté.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Et si vous nous rejoignez sur RCJ, il est midi au programme de cette édition. L'actualité israélienne, ce sera avec l'analyste Rina Bassiste. On retrouvera ensuite Annette Lévy-Villard pour son billet d'humeur. Puis on parlera des Haredim israéliens après qu'un vote d'exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes ait été évité de justesse, entre guillemets, et permis à la Knesset de ne pas être dissoute. On retrouvera ensuite, comme chaque jeudi, le billet d'humeur de Tristan Bannon. Et on finira cette édition par l'histoire juive du jour de Jérôme Attal. On fait tout de suite un tour d'horizon de l'actualité sur RCJ.
Le journal.
Réaction du ministre israélien des Affaires étrangères à l'envoi d'une lettre du président palestinien Mahmoud Abbas à Emmanuel Macron. Le président Macron, je cite, exprime son enthousiasme face à la lettre soigneusement orchestrée qu'il a reçue de Mahmoud Abbas. Qu'est-ce qui a donc tant impressionné le président Macron dans cette lettre remplie de slogans vides, de promesses creuses déjà répétées d'innombrables fois et de mensonges sans aucun lien avec la réalité? 614 jours se sont écoulés depuis les attaques terroristes meurtrières du 7 octobre. Ce n'est qu'à présent que Mahmoud Abbas se souvient de réagir dans un langage faible et hésitant, et pas même de sa propre voix, mais à travers une lettre adressée au président Macron, au plus grand massacre commis contre le peuple juif depuis la Shoah. C'est une triste farce. Fin de citation. Le ministre israélien des Affaires étrangères a par ailleurs accusé le Hamas d'instrumentaliser la souffrance à Gaza après que la Fondation humanitaire de Gaza a affirmé que le mouvement terroriste avait tué au moins 5 de ses travailleurs humanitaires après les menaces, les mensonges et les perturbations d'aide. Ils ont eu recours au meurtre de sang-froid, déclaré Gideon Sarr sur son compte X. Le Hamas instrumentalise la souffrance à Gaza, il prive la population de nourriture, prend pour cible ceux qui aident à sauver des vies et abandonne son propre peuple. C'est l'ajouter. Le ministère palestinien des télécommunications a affirmé que les réseaux de téléphonie et Internet étaient coupés dans l'ensemble de la bande de Gaza, et ce en raison, je cite, d'une attaque sur la dernière ligne principale de fibre optique encore en service dans le territoire. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré ce jour planifier une augmentation significative de la production d'uranium enrichi après l'adoption par l'Agence internationale de l'énergie atomique d'une résolution condamnant l'Iran pour non-respect de ses obligations nucléaires. De nouvelles frappes de drones nocturnes russes ont fait 14 blessés, dont 4 mineurs à Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine, visée quasiment tous les jours par des attaques aériennes russes. Le parquet de Dijon a requis la mise en examen pour meurtre d'une personne chargée de mission de service public, de l'adolescent de 14 ans qui a tué mardi de plusieurs coups de couteau une surveillante de son collège à Nogent. Le parquet requiert également sa mise en examen pour violence volontaire ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours contre un gendarme blessé lors de son interpellation et son placement en détention provisoire, annoncé dans un communiqué le procureur de Dijon. En raison de sa minorité, le suspect encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle au lieu d'une peine de prison à perpétuité. L'adolescent est présenté ce jour à un juge d'instruction de Dijon à l'issue de 2 jours de garde à vue, alors que le collège Françoise Dolto de Nogent a rouvert ses portes ce matin, qu'une minute de silence a eu lieu dans tous les établissements de France à midi. On écoute à présent le ministre de la Santé qui évoque les conséquences en termes de santé mentale.
Il y a urgence à renforcer toute la prise en charge de la santé mentale de la population, et particulièrement des plus jeunes. Et je crois que ne rien faire, ne rester dans la contemplation serait extrêmement préjudiciable. Mais... J'ai présenté le plan santé mentale au mois d'avril. Nous avons eu le budget au mois de février. J'ai présenté le plan au mois d'avril en Conseil des ministres. Et au gré, effectivement, des sujets, nous le déclinons. Je l'ai décliné avec la médecine du sport, avec la ministre des Sports. J'ai décliné avec Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, lors des journées de santé scolaire.
Et enfin, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'est à nouveau exprimé, c'était ce matin au micro d'RTL, sur ses intentions ou non d'alliance avec la France insoumise.
Mais ça n'était pas un débat, en fait. La réalité, c'est que nous n'irons pas derrière Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, et tout le monde le sait, et il n'y aura pas l'accord national au municipal avec les insoumis.
Ni à la présidentielle.
Et dans un instant, sur RCG, retrouvez l'analyse de l'actualité israélienne avec Rina Bassis. Rina Bassist, journaliste analyste, bonjour.
Bonjour Elsa, boker tov.
Et on commence par ces deux corps d'ex-otages qui ont été retrouvés par Tzal dans la bande de Gaza. Dans quelles conditions s'est déroulée cette opération? Et on ne connaît l'identité que de l'un d'entre eux pour l'instant.
Oui, c'est vrai, pour l'instant on a très peu en fait de détails Elsa sur cette opération militaire qui s'est déroulée hier. On sait que ça s'est déroulé à Khan Younes et on sait également le nom d'un des corps des otages qui étaient rapatriés, c'est Yair Yaakov, 59 ans, qui était kidnappé, assassiné le 7 octobre. Il était kidnappé de sa maison au kibbutz Nir Oz avec sa compagne, Tal, et ses deux enfants, Yagil et Or, 12 et 16 ans, étaient aussi kidnappés. Tal, Yagil et Or, tous les trois étaient relâchés dans cette accord qu'on a vu en novembre 2023, et maintenant les corps de père étaient rapatriés.
Et l'une des autres actualités ce matin en Israël, c'est à la Knesset le vote qui aurait pu la dissoudre et mener à de nouvelles élections. Au final, la majorité a été obtenue à nouveau par la coalition. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accord a été trouvé avec les partis religieux?
Oui, comme vous l'avez dit, finalement, il y avait une majorité contre, en fait, la dissolution de la Knesset, avec 61 membres de Parlement qui ont voté contre cette proposition de l'opposition, et seulement 53 qui étaient favorables. Et parmi ceux qui se sont opposés, il y avait effectivement, pas tous, mais une grande partie de membres de Parlement de partis ultra-orthodoxes, parce qu'à la fin, c'était ça les corps de cette proposition de l'opposition qui a vu une opportunité justement pour dissoudre la Knesset. Il y avait, on a vu ces derniers jours, des discussions extrêmement longues, extrêmement compliquées entre les représentants de ces partis ultra-orthodoxes et d'un côté, et de l'autre côté, Yudli Edelstein, qui est à la tête de la comité du Knesset pour la sécurité. Donc c'est lui, en fait, qui représente d'une certaine façon les ministères de la Défense et l'armée israélienne, qui exigent, qui disent on a besoin de plus de soldats dans la situation actuelle. Et plus de ça, ça fait maintenant un an que la Cour suprême israélienne exige, demande au gouvernement, il faut résoudre cette question. Donc soit on reste dans la situation où il n'y a pas de loi spécifique pour exempter les autres orthodoxes, et là ça veut dire que la loi générale qui oblige tous les jeunes israéliens dès qu'ils arrivent à l'âge de 18 ans de devenir soldats, donc s'il n'y a pas une autre loi, il faut appliquer cette loi-là, soit il faudra mettre en place une loi spécifique. Et là, on a les principes pour peut-être une loi spécifique qui va voir la première année le recrutement de 4800 jeunes ultra-orthodoxes, 5700 jeunes ultra-orthodoxes l'année suivante, en arrivant à l'espace de 5 ans au recrutement de plus ou moins 50% de tous ceux qui sont obligés normalement de servir, avec des sanctions immédiates sur ceux qui vont refuser, y compris il y a des sanctions qui ne sont pas très pertinentes, peut-être ils ne pourront pas partir à l'étranger, alors ils ne vont pas recevoir des allocations pour étudier à l'université, alors ce n'est pas très pertinent, mais il y a d'autres sanctions qui pourront être plus dures pour eux, par exemple la question des permis de conduire, et les allocations, et les charges sociales, et ce genre de choses. Donc on n'a pas encore tous les détails, mais on dirait qu'on y va vers un accord.
Et qu'est-ce que ça venait dire aussi, le fait que ce soit quasiment toute l'opposition israélienne qui s'allie pour faire tomber ce gouvernement? Et est-ce que, quand même, ça reste fragile, cette coalition? Est-ce qu'il y a des perspectives, en tout cas, elle peut rester encore solide à court, moyen, long terme, cette union?
Je crois non. Je crois que pour l'instant, la coalition est assez solide parce qu'on sait qu'il y a, là, on a vu 61 membres du Parlement qui ont voté contre l'opposition. Normalement, il y a une majorité assez confortable de 64. On sait aussi que cette session d'été du Parlement, elle arrive vers sa fin, je crois que la Knesset va partir en vacances d'été le 27 juillet. Donc, c'est un espace assez court. Si vraiment il y a un accord dans cet espace de temps sur cette question qui est cruciale pour les partis ultra-orthodoxes, même s'il n'y aura pas une loi qui va être votée, mais s'il y aura un accord pour une loi qui va être votée, et pour exempter la plupart des étudiants dans les yeshivot, en ce cas, le Premier ministre Benjamin Netanyahu sera tranquille jusqu'à la reprise des sessions de Knesset à la fin des vacances d'été.
Merci beaucoup Rina Bassiste, midi 11 sur RCG, restez avec nous. On se retrouve dans un instant et ce sera le billet d'humeur d'Annette Lévy-Villard.
RCJ midi, Elsa Parienté. Et si cet été, vous faisiez la plus belle des choses, offrir un été à ceux qui n'en ont pas? Un enfant qui découvre la mer pour la première fois. Une personne âgée qui découvre des visages, des voix, de la chaleur humaine. Une maman seule, soulagée de savoir qu'on pense à elle. Un ado en situation de handicap, accueilli dans un centre adapté. Avec le FSJU, chaque don transforme leur été. Un été pour eux, un été pour donner. Donnez sur fsju.org. FSJU, votre cœur a toujours raison.
La 20e édition du Festival des Cultures Juives. Concerts, rencontres, théâtre, expo, du 15 au 30 juin, découvrez un programme inédit au cœur de Paris. Pour sa soirée d'ouverture, le contrebassiste Avishai Cohen vous donne rendez-vous dimanche 15 juin à 19h dans le cadre intime du Théâtre du Rond-Point pour vivre une expérience musicale inoubliable. Détails et réservations sur festivaldesculturesjuives.org.
Du coup, je pense que je vais chanter...
Non mais attention, c'est moi l'attention, hein. c'est pas la démocratie, c'est une dictature ici, c'est moi qui décide. Hein.
Rire pour changer des vies. Prenez vite vos places pour une soirée exceptionnelle proposée par le FSJU. Samuel Bondy et Friends, avec notamment Samuel Bondy, Fancy Cohen et Vincent Serroussi. Mercredi 18 juin à 20h, Espace Rachi. Un événement solidaire au profit des colonies de vacances pour enfants défavorisés, soutenu par les tickets vacances du FSJU. Billets sur billetsweb.fr, Bambi, Paris.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 14 sur RCJ et à présent, on revient sur une date marquante de l'histoire juive avec vous, Jérôme Attal.
L'histoire du jour, Jérôme Attal.
Le 12 juin 1929, est né Anne Frank à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. En 1933, pour fuir le nazisme, sa sœur Margot et leurs parents Otto et Edith décident de quitter l'Allemagne pour s'installer à Amsterdam pour y trouver refuge. Cependant, en mai 1940, les Allemands envahissent les Pays-Bas, mettant fin à la relative sécurité dont ils jouissaient. Rapidement, les mesures anti-juives se multiplient et restreignent sévèrement les libertés des juifs néerlandais. Le 6 juillet 1942, Margot reçoit une convocation pour un camp de travail en Allemagne, ce qui pousse la famille à entrer dans la clandestinité. Il se cache dans l'annexe, un espace dissimulé derrière l'entreprise d'auto située à Amsterdam. Ils sont bientôt rejoints par la famille Van Pels et plus tard par Fritz Pfeffer, portant à 8 le nombre de clandestins. Durant plus de 2 ans, Anne consigne dans son journal ses pensées et ses espoirs, offrant un témoignage précieux sur la vie en clandestinité sous l'occupation nazie. Le 4 août 1944, la cachette est découverte par la Gestapo et ses occupants sont arrêtés. Après un passage par le camp de transit de Westerbork, Anne et sa famille sont déportées à Auschwitz. Puis, en novembre 1944, Anne et Margot sont transférées au camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne. Une épidémie de typhus frappe le camp. Anne et Margot contractent la maladie et décèdent probablement en février ou mars 1945. Quelques semaines seulement avant la libération du camp, elles avaient 15 et 18 ans. Après la guerre, Otto Frank, seul survivant de la famille, retourne à Amsterdam, où il reçoit le journal de sa fille, préservé par Miep Gies, une juste parmi les nations, qui cacha la famille. Il va le publier en 1947 sous le titre « L'annexe ». Le journal d'Anne Frank est devenu un ouvrage emblématique, témoignage intime sur les souffrances endurées durant la guerre, traduit depuis en plus de 70 langues. Journal que l'on peut voir au musée d'Anne Frank à Amsterdam. 1,1 million d'enfants juifs furent assassinés durant la Shoah. Nous sommes le 12 juin.
Midi 16 sur RCG, restez avec nous, on se retrouve dans un instant, ce sera le billet d'humeur d'Annette Lévy-Villard. RCG.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France, vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite, gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile, le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaques. Contactez le kiosque solidaire, service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement.
Et si cet été, vous faisiez la plus belle des choses, offrir un été à ceux qui n'en ont pas? Un enfant qui découvre la mer pour la première fois. Une personne âgée qui découvre des visages, des voix, de la chaleur humaine. Une maman seule, soulagée de savoir qu'on pense à elle. Un ado en situation de handicap, accueilli dans un centre adapté. Avec le FSJU, chaque don transforme leur été. Un été pour eux, un été pour donner. Donnez sur fsju.org. FSJU, votre cœur a toujours raison.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info.
Bonjour, c'est Francky Pérez. Je vous donne rendez-vous tous les samedis soirs de 23h à minuit pour In The Mix sur RCJ.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 18 sur RCG, ravie de vous retrouver en studio. Annette Lévy-Villard, bonjour.
Bonjour Elsa.
Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard.
Bonjour Elsa. Vous me connaissez, je n'ai pas l'habitude de copier sur mes confrères et consoeurs journalistes. Mais aujourd'hui, je vais consacrer cette chronique à vous parler d'un article publié mardi dans le New York Times, signé par l'un des plus grands journalistes américains, l'un des meilleurs reporters en Israël et dans le Proche-Orient, Thomas Friedman. C'est un monument du journalisme contemporain. Thomas Friedman écrit pour le New York Times depuis 45 ans. Il a gagné tous les prix de la presse, 3 fois le Pulitzer et aussi le Goncourt américain, le National Book Award, pour l'un de ses livres, De Beyrouth à Jérusalem. Tout ceci pour vous annoncer le titre violent de son papier de mardi. Le gouvernement israélien est un danger pour les Juifs dans le monde. Ce n'est pas Friedman qui parle, mais d'anciens soldats et des réservistes de l'armée israélienne qui en appellent aux États-Unis et à la diaspora. Le journaliste cite une lettre qu'il a reçue du Forum 555, une association de 1700 pilotes, certains encore réservistes de l'Air Force israélienne, qui disent « Nous ne voulons pas oublier la nature monstrueuse du massacre perpétré par les terroristes de Hamas en ce samedi maudit. Nous pensons que la guerre était totalement justifiée, écrivent les pilotes. Mais cette guerre qui se poursuit n'a plus de raison stratégique ni de raison de sécurité. C'est devenu une guerre immorale, une guerre de vengeance. » Fin de citation. Thomas Friedman reçoit ensuite une autre lettre, cette fois du mouvement Commanders for Israel Security, 550 anciens cadres de la défense, des renseignements et de la diplomatie israélienne qui disent, je cite, « Nous rejetons l'idée que les juifs de la diaspora doivent rester silencieux. À ceux qui craignent que la critique publique affaiblisse Israël, nous disons qu'un dialogue ouvert, honnête, renforce notre démocratie et notre sécurité. » Fin de citation. Puis Thomas Friedman parle aussi de lui-même, ce qui est exceptionnel dans un article du New York Times, par un journaliste du New York Times. Il écrit « En tant que juif qui croit au droit du peuple juif à vivre en sécurité dans un État sur sa terre biblique, à côté d'un État palestinien en sécurité, je suis concerné aujourd'hui par l'avenir de ma propre tribu. Et si ma propre tribu ne s'oppose pas à l'indifférence du gouvernement israélien face au nombre de civils tués chaque jour à Gaza et aux tentatives de transformer Israël en État autoritaire, les Juifs dans le monde vont le payer très cher. Nous allons vers la redéfinition de l'image d'Israël et des Juifs dans le monde. Et elle n'est pas bonne. Israël, au lieu d'être pour les Juifs le refuge contre l'antisémitisme, explique Friedman, deviendra au contraire la machine à produire de l'antisémitisme. Ce futur n'est pas encore là. Mais si vous ne voyez pas l'avenir qui se dessine, vous êtes dans le déni. Si cette guerre se poursuit indéfiniment, vous feriez mieux de vous préparer à être juif dans un monde où l'État hébreu n'est plus une source de fierté, mais une source de honte. » Fin de citation. C'est donc un appel aux juifs hors d'Israël à se manifester. Des voix se font déjà entendre en Israël, chez d'anciens premiers ministres et chefs de guerre comme Ehud Barak ou Ehud Olmert, mais aussi en dehors du pays, comme le grand rabbin d'Angleterre, des rabbins américains, et en France, chez des personnalités de la communauté juive, comme le rabbin Delphine Orvillère, Johann Starr ou Hans Sinker. Thomas Friedman regrette l'absence d'une prise de parole identique dans le camp palestinien. Mais, dit-il, la guerre peut s'arrêter. Il explique, le gouvernement Netanyahou devrait dire à l'administration Trump et aux médiateurs arabes qu'il est prêt à se retirer de Gaza par étapes, à être remplacé par une force internationale de maintien de la paix avec des pays arabes et l'autorité palestinienne, à condition que les dirigeants du Hamas acceptent de rendre tous les otages vivants et les otages morts, et de quitter Gaza. » Fin de citation. Oui, c'est à la fois simple et compliqué.
Merci beaucoup Annette, midi 23 sur RCJ. Mathias Hoth, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. On va commencer par ce procès du viol antisémite d'une petite fille à Courbevoie qui avait eu lieu il y a un an. Ce procès qui s'est ouvert hier. La petite fille de 12 ans ne sort plus de chez elle seule. Le caractère antisémite de l'affaire a été retenu par la justice. Elle a été violée, je cite, pour venger la Palestine. C'est un des actes les plus terribles, j'ai envie de dire, qui a eu lieu depuis la multiplication des actes antisémites le 7 octobre. C'est quelque chose qui vous reste en mémoire?
Oui, un an après, quasiment jour pour jour, ce drame terrible, on est tous encore saisis d'effroi et je veux à nouveau évidemment faire part de mon émotion, celle du gouvernement, mais celle, je le sais aussi évidemment, des Juifs de France, mais au-delà même des Juifs de France, l'émotion qui a saisi toute l'opinion publique au moment de cette terrible affaire qui est évidemment un drame pour cette jeune fille et qui aussi évidemment porteuse d'un certain nombre d'enseignements, notamment on y reviendra sur le rajeunissement des auteurs, sur aussi la haine antisémite qui est à l'origine de ce drame et de ce viol, et notamment le harcèlement antisémite dont cette jeune fille faisait déjà l'objet avant même ce drame absolu dont elle a été victime. Donc c'est un choc, c'est un effroi, mais c'est aussi évidemment des leçons à tirer dans le contexte qui est le nôtre, notamment sur le front de la lutte contre l'antisémitisme.
Souvent, il y a donc des signaux qui sont remontés ou non, notamment au niveau de l'école. On comprend que l'école ne peut pas tout, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet, vous l'évoquiez, sur le rajeunissement des actes antisémites. Qu'est-ce qu'il faut faire plus tôt, plus vite, pour ne pas arriver à ces actes aussi terribles?
Alors vous le savez, le gouvernement, face à cette recrudescence, cette explosion, cette déferlante, il faut bien le dire, d'actes antisémites que notre pays connaît, que les Juifs de France connaissent depuis le 7 octobre, et malheureusement, je veux le rappeler dans les chiffres, ça se poursuit, y compris évidemment en 2025, 280 actes antisémites ont eu lieu dans notre pays depuis le début de l'année 2025, évidemment on a une pensée pour le rabbin d'Orléans, évidemment j'ai une pensée pour le rabbin Lemel qui a été doublement victime d'une agression antisémite. Mais pour répondre directement à votre question, dans ce contexte, évidemment, le gouvernement est très mobilisé avec Aurore Berger, vous le savez, notamment sur la relance des assises de lutte contre l'antisémitisme, qui comporte un chapitre extrêmement important sur l'éducation, puisque, évidemment, tout commence par l'école. On le voit à travers, malheureusement, ce drame, et on sait aussi, le CRIF l'a montré dans une récente étude, le poids des préjugés, le poids des stéréotypes qui existent aujourd'hui chez les plus jeunes. Je vous donne juste un exemple qui, là aussi, peut saisir tout le monde d'effroi. Un jeune sur quatre dans cette étude du CRIF pense encore que les juifs et l'argent, c'est vrai, ce mythe des juifs et de l'argent. Ça montre à quel point, en 2025, l'ancrage des stéréotypes et des préjugés est important et il faut le combattre.
Mais justement, on a l'impression qu'il y a ces préjugés, et notamment qui s'ancrent de plus en plus du côté de l'instrumentalisation du conflit entre Israël et le Hamas. Et pour autant, on a l'impression que la réponse apportée, souvent elle se situe du côté de la Shoah, l'enseignement de la Shoah. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage toujours entre ces deux aspects ?
Alors, vous avez raison sur plusieurs choses. D'abord, un, le travail de mémoire, il est indispensable, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Et effectivement, ce travail de mémoire, il doit être prolongé par l'analyse du temps présent et mieux comprendre notre passé pour décortiquer ce qui peut être à l'œuvre aujourd'hui. Et les stéréotypes, malheureusement, qui existaient sur les Juifs pendant la guerre et avant la Seconde Guerre mondiale, se poursuivent aujourd'hui. Et le chiffre que j'évoquais tout à l'heure le montre largement. Donc, on peut tout à fait, en parlant du passé, comprendre le présent et décortiquer ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Puis enfin, je voudrais évidemment souligner, vous l'avez dit vous-même, cette instrumentalisation épouvantable, évidemment, du conflit entre Israël et le Hamas, qui instrumentalisation, on le sait bien, notamment par l'extrême gauche, qui est aujourd'hui le principal carburant de l'antisémitisme dans notre pays. On l'a vu à l'encontre de cette jeune fille, malheureusement, puisque les références évidemment à Israël et à la Palestine étaient permanentes. On l'a vu à l'encontre du rabbin Lemel, et donc il faut que ça s'arrête.
Il y a quelque chose aussi qui se décadre dans les mots utilisés. On a bien sûr beaucoup parlé de celui de génocide. En ce moment, c'est celui d'otage avec cette flottille qui était en direction de Gaza, avec notamment à son bord Rima Hassan. Le Premier ministre l'a rappelé. C'est quelque chose qui nuit quelque part à tout le monde, au débat public, cette mauvaise utilisation des termes.
Alors moi, je pense à une phrase qu'a prononcée le rabbin Lemel au moment de son agression, qui a dit « Il faut faire attention aux mots M-O-T-S parce qu'ils peuvent nous faire arriver aux mots M-A-U-X ». Et il a parfaitement raison, évidemment. Les mots ont une grande importance. Et évidemment, sur les questions du génocide, on ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas tout confondre. C'est la même chose sur la question des otages, qu'on ose parler d'otages alors que... plusieurs familles attendent depuis maintenant 614 jours le retour de leurs otages de Gaza. C'est évidemment tout à fait infamant et scandaleux.
Dans l'affaire de Courbevoie et dans bien d'autres, il y a souvent le sujet des réseaux sociaux, de la haine qui est alimentée par des contenus, notamment sur TikTok, chez les jeunes. Il se trouve que là, au vu du drame de nos gens, le président de la République a annoncé son intention d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. C'est un enjeu aussi pour vous, au-delà des enjeux de violence, mais sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.
C'est un enjeu majeur, puisqu'on voit bien que les réseaux sociaux servent aujourd'hui à la fois de révélateurs de la haine en ligne, mais aussi d'accélérateurs en raison à la fois de l'absence de modération, notamment de la part d'un certain nombre de plateformes, je pense en particulier à X, mais aussi à cause des algorithmes, parce que les algorithmes font que la haine alimente toujours la haine. On l'a vu après ce crime raciste, vous le savez, dans le Var, avec les propos qui ont été tenues par l'auteur présumé. La haine alimente toujours la haine et les algorithmes servent malheureusement d'accélérateur. Donc c'est un enjeu majeur pour le gouvernement. Aurore Berger a d'ailleurs, vous le savez, convoqué l'ensemble des plateformes numériques il y a de cela 15 jours pour leur demander des comptes et pour leur rappeler que le racisme et l'antisémitisme, c'est jamais une opinion, c'est toujours un délit dans notre pays.
Vous l'avez évoqué, ce meurtre raciste d'Hichem Mirawi et ses crispations identitaires. Il y a eu à nouveau des militants d'ultra-droite qui ont été arrêtés, qui projetaient des actes contre les musulmans. Il y a quelque chose aussi qui se joue dans la radicalisation de la parole et la violence des actes contre les musulmans aujourd'hui en France.
Il y a une banalisation de la parole raciste dans notre pays qui ne date pas d'hier, qui a des racines évidemment plus anciennes et plus lointaines depuis le début des années 80. Mais ce que je veux souligner, c'est que malheureusement, dans ce domaine, et on peut pas regarder de manière isolée les différentes haines, et c'est évidemment le sens et le rôle de la DILCRA. Les haines s'alimentent entre elles. Ça commence bien souvent, on l'a vu dans notre histoire malheureusement, par l'antisémitisme, par les juifs, mais ça ne s'arrête jamais à l'antisémitisme. Et ensuite, une fois qu'on a commencé à s'en prendre aux juifs, on s'en prend toujours à la figure de l'étranger, on s'en prend toujours à la figure de celui qui vient d'ailleurs, à celui qui est différent. Et donc, évidemment, il ne faut jamais regarder les haines de manière isolée, il faut les prendre tout ensemble de front et les combattre avec la même détermination.
Aujourd'hui, quelles sont vos mesures phares, vos projets phares à la DILCRA? On se doute que, bien sûr, ce n'est pas vous qui pouvez les mettre en place dès demain, mais de se dire, au vu des tensions extrêmes qui agitent notre pays, aujourd'hui, quelle est la priorité, votre priorité?
Trois sujets. Un, la haine en ligne, on en a parlé, c'est fondamental pour demander aux plateformes de faire leur job et ce pourquoi elles sont attendues pour respecter la loi aujourd'hui en matière de racisme et d'antisémitisme. Deux, le travail d'éducation, parce qu'il est fondamental, il est essentiel. C'est sur eux que repose l'espoir d'une société meilleure, évidemment, demain. Et puis trois, le travail sur la sanction, le travail judiciaire. Dans ce cadre, vous le savez, avec les assises de lutte contre l'antisémitisme, on a entamé un travail pour revoir la procédure et accélérer les procédures. On ne peut pas continuer avec ce sentiment d'impunité quand il y a des propos antisémites qui sont tenus et qu'on a des sanctions 6 mois après, voire parfois 1 an après. Il faut qu'on ait des sanctions beaucoup plus rapides et revoir en profondeur les procédures. C'est tout le débat sur la loi sur la presse, vous le savez, pour sortir les infractions racistes et antisémites de la loi sur la presse. C'est le sujet sur lequel travaille le gouvernement avec Aurore Berger, avec Bruno Retailleau et Gérald Darmanin.
Je me permets juste de vous interrompre sur ce sujet parce qu'on ne peut pas nier, on les a reçus ici, qu'il y a de nombreux avocats qui sont quand même contre. Et au-delà du sujet technique, c'est se dire que c'est une proposition qui n'était pas dans celle formulée par le groupe de travail, qui est aujourd'hui le principal instrument politique de la réponse des assises de lutte contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, se dire que ce n'est pas ça qui va faire que les actes antisémites vont baisser en France. Donc voilà, il y a peut-être un questionnement aussi là-dessus, c'est ça aujourd'hui la priorité mise en œuvre par le gouvernement contre l'antisémitisme.
Alors, j'ai dit qu'il y avait un débat sur la loi sur la presse, mais il y a un point qui rejoint, je crois, l'ensemble des participants de ce groupe de travail, c'est de revoir la procédure. Que ça soit dans le cadre de la loi sur la presse ou en dehors de la loi sur la presse, il y a un enjeu d'accélérer, de revoir les procédures pour que la réponse pénale soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. C'est pas ça qui va résoudre le problème de l'antisémitisme. C'est pas la mesure sur l'éducation, c'est pas la haine en ligne, évidemment, c'est toutes ces mesures qui pourront contribuer à faire reculer ce phénomène.
Vous entendez qu'il y a une attente vraiment très forte des juifs, mais pas seulement, de tous ceux qui sont victimes de racisme et de discrimination vis-à-vis des pouvoirs publics en ce moment. Et est-ce que les gens vous la formulent? Est-ce que les associations notamment sont foncièrement inquiètes en ce moment?
Il y a de la lassitude et il y a de la colère. Je le sais, c'est le cas pour la communauté juive, c'est le cas aussi pour des nombreux compatriotes de confession musulmane qui s'inquiètent de ce climat nauséabond qui existe aujourd'hui dans notre pays, évidemment en matière d'antisémitisme, mais on le voit malheureusement pas seulement. Donc il y a de la colère, il y a de la lassitude, il y a de l'émotion et je les entends parfaitement et je les entends même tous les jours malheureusement. Mais ça renforce notre détermination à agir. Il n'y a pas de baguette magique, hein. Ceux qui vous font croire, les charlatans qui vous font croire que avec une mesure phare, on va réussir à résoudre le problème de l'antisémitisme dans notre pays, ce sont des charlatans. Mais par contre, grâce à notre mobilisation collective, celle du gouvernement, celle de l'ensemble des ministères, des acteurs associatifs évidemment, on peut faire reculer et se battre.
Dernière question sur cette affiche de la marche des fiertés parisiennes, de laquelle vous avez retiré votre logo. Il y avait plusieurs symboles, une jeune femme qui était voilée, une autre qui avait un drapeau palestinien en pin, c'est un homme qui était pendu, alors quand bien même il avait un symbole de l'extrême droite sur lui, mais en tout cas une affiche qui ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait du progressisme et de la lutte contre les discriminations dans notre pays. Quel rapport aujourd'hui à cette marche des fiertés? Vous ne la soutenez plus? On a vu que Valérie Pécresse a retiré le fait de protéger la marche. Est-ce que ce n'est pas non plus une mise en danger des gens qui vont défiler ce jour-là? Qu'en est-il à ce sujet?
Alors, vous l'avez rappelé, avec Aurore Berger, on a immédiatement demandé le retrait du logo de la DILCRA, parce que cette affiche, effectivement, véhicule des messages qui nous semblent contraires à la défense des droits des personnes LGBT, et mélange des sujets qui n'ont par ailleurs rien à voir avec cet enjeu fondamental. Donc, on a retiré, évidemment, notre logo. Mais nous, on fait la part des choses entre cette affiche, qui ne rime pas avec les valeurs que nous défendons, et la marche en tant que telle, qui doit avoir lieu, qui doit se passer dans de bonnes conditions. Et cette marche de fierté, elle doit rimer avec fraternité, elle doit rimer avec unité, elle doit rimer aussi avec universalisme. Et je sais que les millions, les milliers de personnes qui vont défiler dans tout le pays, à Paris comme ailleurs, le feront pour défendre ces valeurs d'unité et de fraternité.
Mathias Hoth, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, midi 35 sur RCJ. Et alors que la Knesset aurait pu être dissoute, et notamment autour de ce sujet de l'exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes, on fait un panorama de qui sont ces Haredim en Israël, et c'est avec Dror Eben Sapir.
Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des ultra-orthodoxes, ceux que l'on appelle en hébreu les Haredim, c'est-à-dire ceux qui craignent, en l'occurrence ceux qui craignent Dieu. Ce que j'aimerais démontrer dans les minutes qui viennent, c'est que le monde Haredi est en crise, ou tout du moins à la croisée des chemins, et ce en dépit, ou peut-être à cause, nous le verrons, de la première des caractéristiques qui vient à l'esprit lorsque l'on évoque ce que l'on appelle aussi les hommes en noir, à savoir leur dynamisme démographique. Un petit rappel tout d'abord, il faut insister sur le fait que l'ultra-orthodoxie est bien plus hétérogène que l'on pourrait penser. Au risque de grossir le trait, on peut dire qu'il y a en Israël trois catégories de Haredim. Les différentes communautés chassidiques d'abord, qui présentent un judaïsme rigoriste certes, mais aussi volontiers mystique, et dont la figure centrale est l'admor initial de notre maître, notre enseignant, notre rabbin. Autorité rabbinique vénérée et dont, dans la plupart des cas, le charisme et l'infaillibilité que les fidèles lui attribuent sont censés se transmettre de génération en génération. Il y a en Israël et ailleurs de très nombreuses hassidouyot, des communautés qui varient selon le nombre de leurs membres, mais aussi en fonction de leur rapport assez différent à la modernité et à l'État. Très opposés en principe aux tendances mystiques du hassidisme, à tel point qu'ils se firent appeler les mitnagdim, les opposants au hassidisme, en fait, vous trouverez les ultra-orthodoxes du courant lituanien, issus à l'origine des écoles talmudiques, ou yeshivot, de Lituanie, qui prenaient un judaïsme concentré sur l'étude du Talmud et des textes sacrés. Aujourd'hui, c'est le courant le plus important numériquement, en Israël, en tout cas. Et c'est sous sa tutelle qu'est né, et puis s'est développé d'une manière assez spectaculaire, l'ultra-orthodoxie orientale, entre guillemets, représentée politiquement par le parti politique Chass. Les Haredim venant de familles originaires du Maghreb ou du Mashrek sont en général plus insérés dans la société israélienne que leurs congénères ashkénazes. Leurs pratiques religieuses se caractérisent souvent, même si ce n'est pas systématique, par davantage de souplesse et de tolérance. Les présentations ayant été faites, encore une fois, d'une manière succincte, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord en rappelant que l'ultra-orthodoxie israélienne est un phénomène à la fois unique au monde et inédit dans l'histoire juive. Des communautés ultra-orthodoxes existent en dehors d'Israël, à Paris, à Londres, à Anvers, à New York, pour ne citer que les exemples les plus connus. Elles ne sont pas moins strictes d'un point de vue religieux et repliées sur elles-mêmes d'un point de vue sociologique que leurs équivalents israéliens. Mais la grande majorité de leurs membres exercent une profession, un métier. Ce qui n'est pas le cas des Haredim israéliens, censés consacrer leur vie entière à l'étude des textes sacrés. Or, dans les communautés traditionnelles d'Europe de l'Est, avant la création de l'État d'Israël, il s'agissait d'un privilège réservé aux plus doués, les Elohim. Seuls ces étudiants brillants, triés sur le volet, étaient dispensés de travailler et ils pouvaient compter sur la générosité de leurs coreligionnaires pour subvenir à leurs besoins. L'idée que des générations entières, exclusivement masculines, faut-il le rappeler, dédient leur existence à l'étude en yeshiva est donc à la fois sans précédent dans l'histoire juive, l'ultra-orthodoxie comprise, et sans d'équivalent contemporain en dehors d'Israël. Une singularité qui a pour origine la volonté des Haredim israéliens de refonder après l'hécatombe de la Shoah un monde de la Torah, comme ils l'appellent, dense, solide, et aussi, et surtout peut-être, dû à leur crainte de voir leur vieil adversaire, le sionisme, l'emporter définitivement en laïcisant, une fois établi, l'État d'Israël, ceux des Juifs qui étaient restés pieux en dépit de l'influence de la modernité juive, la Haskalah, dont le sionisme semblait être, après la Seconde Guerre mondiale en tout cas, l'incarnation la plus victorieuse. Tentons de comprendre maintenant pour quelles raisons ce modèle unique, donc, est probablement sur le point de vaciller, en énumérant d'abord des causes que l'on pourrait qualifier de structurelles. Économiquement, en dépit des subventions étatiques particulièrement généreuses, elles ne l'ont d'ailleurs jamais autant été que sous le gouvernement actuel, en dépit également d'un certain ascétisme, d'une certaine éthique de la simplicité et de la pauvreté, ce modèle ne peut perdurer. Comme en témoigne le nombre de Haredim qui travaillent au noir, puisque leur dispense des obligations militaires leur interdit de travailler légalement. En témoigne également la proportion importante de femmes, de Harediot, qui exercent une profession légalement, elles, tout en élevant des fratries dont on sait à quel point elles sont nombreuses. On constate d'ailleurs ces derniers temps l'émergence, encore timide, encore embryonnaire, d'un véritable féminisme haredi, qui pourrait contribuer sur le long terme à faire évoluer l'ensemble du monde ultra-orthodoxe. À cela s'ajoute une crise de croissance. L'augmentation exponentielle du nombre de haredim ébranle les contours et les délimitations du monde ultra-orthodoxe, autrefois défini avec beaucoup de clarté. Des phénomènes comme celui des ultra-orthodoxes modernes, c'est presque un oxymore, ou encore celui, assez fascinant, des Haredim qui présentent tous les aspects extérieurs de leur appartenance religieuse et qui, en catimini, ont plus ou moins abandonné la pratique, voire même la foi. Ces phénomènes, donc, n'auraient pas été concevables il y a quelques années encore. C'est que la modernité, en dépit des efforts déployés pour la tenir à l'écart du monde orthodoxe, ne peut pas ne pas influer sur une société devenue aussi vaste. Alors que le modèle Haredi israélien, on l'a vu, était conçu pour défendre les spécificités culturelles et cultuelles d'un groupe très, très réduit, très minoritaire, ce qu'il était pendant les premières années de l'État d'Israël, ce qu'il n'est plus depuis un bon moment maintenant. Rien d'étonnant donc à ce que le nombre de Chozrim Bechela, ceux qui reviennent à la question en s'éloignant des communautés ultra-orthodoxes dans lesquelles ils avaient grandi, soit en augmentation constante. On dit d'ailleurs, c'est une plaisanterie, mais comme toute plaisanterie, elle a un fond de vérité, qu'aujourd'hui, une mère de famille ultra-orthodoxe est plus d'enfants laïcs qu'une mère de famille laïque. Voilà pour les crises structurelles que connaît l'ultra-orthodoxie israélienne. Venons-en maintenant, aujourd'hui, aux crises d'ordre conjoncturel que subit l'ultra-orthodoxie en Israël. Ces derniers mois, elles se sont accumulées, elles se sont accélérées. Sur le plan juridique, d'abord, puisque la période de prolongation des décrets qui légalisent l'exemption du service national, dont bénéficient, on le sait, les jeunes Haredim, a pris fin. Le gouvernement doit donc légiférer une fois de plus, et on voit mal comment il pourra faire adopter une loi qui puisse satisfaire les partis orthodoxes, piliers de la coalition gouvernementale, sans contrevenir au principe d'égalité des citoyens devant la loi, et donc risquer que cette éventuelle nouvelle loi soit, comme la précédente, abrogé par la Cour suprême. En attendant, si personne n'imagine, bien évidemment, que les jeunes étudiants des yeshivot soient enrôlés de force dans les rangs de Tzahal, la justice a ordonné une réduction du financement de ces yeshivot par l'État, au prorata du nombre d'étudiants en âge de servir. Les difficultés économiques vont donc s'accumuler pour les instituts éducatifs du monde ultra-orthodoxe. Simultanément, les bouleversements liés au massacre du 7 octobre et à la guerre contre le Hamas ont remis en cause plus que jamais auparavant le principe de l'exemption de masse dont bénéficient les étudiants des instituts ultra-orthodoxes. En premier lieu, parce que les pertes importantes subies par l'armée le 7 octobre et dans les mois de guerre qui ont suivi, les enseignements même de cette guerre ont fait vaciller le principe d'une armée réduite et efficace qui misait presque davantage sur les avancées technologique sur le facteur humain. Ça a besoin d'hommes et de femmes. Il est question de rallonger la durée du service militaire ainsi que celle des périodes de réserve. Dans ces conditions, l'exemption des Haredim est vécue plus qu'auparavant comme une terrible injustice. D'autant plus que les Israéliens ont le sentiment que les Haredim n'ont pas été directement affectés par la tragédie du 7 octobre et par les sacrifices auxquels les autres secteurs de la population consentent pour la défense du pays. Un sentiment accentué par les déclarations de certaines figures rabbiniques qui témoignent à la fois de leur déconnexion et de leur inquiétude aussi. Citons par exemple le grand rabbin séfarade d'Israël, Yitzhak Yosef, qui a récemment affirmé que si l'État décidait d'obliger les jeunes Haredim à effectuer un service national, militaire ou civil d'ailleurs, eh bien le monde de la Torah, comme il l'appelle, préféreraient quitter le pays, tout simplement. Les Israéliens laïcs et sionistes religieux acceptent de moins en moins ce refus d'assumer le fardeau de la défense du pays, et plus encore peut-être ce qu'ils sont nombreux à percevoir comme étant le rejet de l'esprit d'unité qui avait gagné la société israélienne après le 7 octobre. Cette amertume est très répandue parmi les électeurs des partis de l'opposition, du centre et de la gauche, mais aussi parmi les électeurs des formations de droite qui ont forgé une alliance politique solide avec les partis ultra-orthodoxes. De quoi remettre en cause, à plus ou moins court terme, la pérennité même de cette alliance. Les partis orthodoxes, autrefois partis pivots pouvant gouverner tant avec la droite qu'avec la gauche, ne sont plus en mesure d'être les faiseurs de roi de la vie politique israélienne. Et l'électorat se prononcera très probablement à l'avenir en faveur de larges coalitions rassemblant les partis de la droite, du centre et de la gauche, sans la participation au pouvoir du Ch'as oriental et du Yadut HaTorah Ashkenaz, les deux listes orthodoxes. En résumé, sur les plans économiques, sociologiques, juridiques et politiques, on vient de le voir, le modèle ultra-orthodoxe israélien subit des bouleversements qui pourraient le transformer en profondeur. À cela, il faut rajouter une autre dimension, la dimension éducative. Le refus des orthodoxes de faire en sorte qu'un tronc commun éducatif avec des cours d'anglais, de mathématiques d'un niveau suffisant soit dispensé dans les écoles ultra-orthodoxes constitue un problème réel pour des générations entières qui ne pourront pas, même si elles le désirent, véritablement s'intégrer au marché du travail israélien, mais un problème plus largement pour l'économie d'Israël, pour la société israélienne, pour l'État d'Israël et sa pérennité comme État démocratique du peuple juif. La crise dont on a parlé, qui touche le monde ultra-orthodoxe, devra être exploitée pour que l'État d'Israël et les communautés orthodoxes parviennent à un modus vivendi qui permette tout de même l'intégration de ces communautés à la fois sur le marché du travail, mais également à la société israélienne et l'adoption par ces communautés d'un tronc commun éducatif, mais aussi d'un tronc commun en termes de valeurs, les valeurs démocratiques.
Un entretien à retrouver en intégralité sur le site d'Academ, www.academ.org, midi 46 sur RCG. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant et ce sera le billet d'humeur de Franz Serreur avec Tristan Bannon.
RCJ Midi, Elsa Parienté. Et si cet été, vous faisiez la plus belle des choses, offrir un été à ceux qui n'en ont pas? Un enfant qui découvre la mer pour la première fois. Une personne âgée qui découvre des visages, des voix, de la chaleur humaine. Une maman seule, soulagée de savoir qu'on pense à elle. Un ado en situation de handicap, accueilli dans un centre adapté. Avec le FSJU, chaque don transforme leur été. Un été pour eux, un été pour donner. Donnez sur fsju.org. FSJU, votre cœur a toujours raison.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France? Vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite? Gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile? Le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaques. Contactez le kiosque solidaire, service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 48 sur RCG, on revient à présent sur cette flottille avec vous, Tristan Bannon, bonjour.
L'humeur de franc-tireur, Tristan Bannon.
Elsa, bonjour. À Gaza, des Palestiniens manifestent au péril de leur vie contre le Hamas. Ils doivent éviter ces tirs et ces menaces pour accéder à l'aide humanitaire qui arrive enfin par camions entiers, mais sous surveillance. Prise au piège entre les bombes israéliennes et l'organisation terroriste qui en fait des boucliers humains, les voilà qui ont dû supporter l'improbable croisière prétendument humanitaire Freedom Flotilla. À son bord, 12 activistes, leur projet, briser un blocus maritime et non alimentaire qui n'existe plus au moyen de quelques vivres embarqués avec eux depuis la Sicile le 31 mai. Rire ou pleurer. À bord, c'était Love Story sur mer, des activités aquatiques, des tutos cuisine, des solos de guitare au soleil couchant et beaucoup d'éclats de rire. Et comme dans toute bonne télé-réalité, le casting a fait le programme. On connaissait déjà les têtes d'affiche, Rima Hassan, eurodéputée insoumise, persuadée que le Hamas est le fleuron de la résistance palestinienne, et Greta Thunberg, qui pensait sans doute expliquer aux Gazaouis l'importance de réduire leur bilan carbone. Mais à bord du Madeleine, luxueux voilier de 18 mètres, il y avait aussi Thiago Avila, jeune activiste brésilien, nostalgique de Hassan Nasrallah, défunt chef du mouvement terroriste Hezbollah, au point d'être allé assister aux obsèques de son idole, tout en dévotion pour ce leader inspirant de la résistance anti-impérialiste. Sick. Et bien sûr, deux journalistes pour couvrir l'exploit, Omar Fayad de la chaîne Al Jazeera Arabique, un média qatari, un temps interdit d'antenne par l'autorité palestinienne pour ses liens avec le Hamas. Et Yanis Mamdi de Blast, à côté de qui même le média de LFI paraît sérieux et modéré. Que les sphères médiatiques et politiques internationales se prêtent au jeu de cette comédie instagrammable est une insulte envers les Palestiniens. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « La flottille s'amuse », où il est question de la réalité de cette mission humanitaire, Gaza Freedom Flotilla, et de la réalité de son arrestation par des soldats israéliens en application des règles de l'ONU. Et fierté, on ne marche plus, c'est un article de Nora Bussini et elle nous parle de l'affiche honteuse et inadmissible de la marche des fiertés de l'inter-LGBT d'Île-de-France. Un homme blanc est pendu, un hijab et un pins du drapeau palestinien, entre autres. Au sein du mouvement, c'est la fracture. Et puis fort retour au point mort, Jérémy Seban nous explique en quoi il fallait que rien ne change pour que rien ne change. Olivier Faure succède à Olivier Faure à la tête du parti qui, coupé en deux, ne parvient pas à se libérer de son emprise LFiste. Le complot de la semaine, c'est David Medioni qui nous le raconte et c'est un faux complot. Le Kremlin en remet une couche. La peinture verte sur le mur des justes du mémorial de la Shoah à Paris, c'était une nouvelle opération liée au Kremlin. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est apparatchik cette semaine où il est question des moins de 500 voix, rien du tout, qui ont séparé Nicolas Mayer-Rossignol d'Olivier Faure, qui l'a emporté à la tête du PS. Mais surtout, des petits calculs de ce dernier qui a aligné pour gagner des déclarations dont il ne reste déjà plus rien. Alger, ingérence sans limite, c'est notre grand dossier cette semaine et il est signé Michael Gagnier, où l'on parle des pressions que subissent jusqu'en France les opposants du régime algérien. Agressions, menaces de mort, enlèvements, rien n'arrête les services du renseignement algérien pour mater les contestations jusque sur notre sol. Mais à la une du journal cette semaine, vous l'avez compris, c'est évidemment La flottille s'amuse et ce sous-titre, sous les selfies, la plage et un coup de com' monté de toutes pièces par les relais du Hamas. En dernière page, le portrait qui fâche fâchera Pierre-Édouard Sterrin cette semaine, le banquier des croisés, le fondateur des coffrets Smartbox, ultra-catho, devenu ainsi milliardaire, veut réaliser l'union des droites. Alors il lui met le prix énorme, espère bien ainsi gagner le paradis. Plein de choses encore dans ce numéro 187 de Franc-Tireur et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, les histrions et qui nous parle de Donald Trump et Elon Musk, évidemment. De quoi leur dispute, devenue engueulade magistrale à grand spectacle, est-elle le symptôme? Et pourquoi est-ce en Amérique qu'une telle catastrophe a lieu? Tout en philosophie pratique, Raphaël Enthoven vous explique l'inexplicable folie à ciel ouvert de l'homme le plus puissant du monde face à l'homme le plus riche du monde. Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons comme chaque semaine désormais
en une de notre journal où l'on tire le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 207 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.
Merci beaucoup Tristan et à la semaine prochaine. Midi 54 sur RCG, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez le mag de l'OPEJ. On se retrouve quant à nous demain dès 8h pour l'information. Très bel après-midi sur RCJ.
RCJ Midi, Elsa Parienté. RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Retrouvez-nous sur le DAB+ et gratuitement sur l'appli RCJ à télécharger sur Apple et Android.
חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי אולי כבר לא אמר בחלון קטן מולי בוע בפנסי החור איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות ולפעמים זה גם קורה לי בלילות לחשוב על כל מה שרציתי להיות ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר לפעמים כשסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק הוא כבר לא רחוק Ich fahr mich so
Sur RCJ.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne.